Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Bondel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est le premier jour de l'automne, la bonne nouvelle. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média. J'espère que vous l'êtes tout autant que nous. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, on va parler d'un comics, par exemple, et de l'hommage à Johnny Hallyday. Il sera d'ailleurs beaucoup question de musique aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou le petit morceau qui vous manque ou le gros morceau qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média va saluer la naissance d'une revue surprenante. Elle a pour ambition de raconter l'histoire à travers 3 siècles de presse. En provenance des archives de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, nous serons avec ses créateurs. Et puis nos invités, Greg pour les intimes, Bébé ou l'une des stars des Marseillais contre le reste du monde, la télé-réalité W9, qui vient d'attaquer sa 6e saison. C'est donc vous dire que ça marche. Il y aura avec lui la productrice de l'émission, Florence Fayard, directrice générale de Banijay, société française devenue le numéro 1 mondial des producteurs indépendants. Enfin, on ne le présente plus, Florent Pagny pour son nouvel album L'Avenir. Il aura 60 ans le 6 novembre. Pourquoi je dis ça? Car c'est le jour qu'il a choisi pour démarrer sa tournée dans toute la France. Vous découvrirez également son portrait pré-fame avec Lisa Marie Marquez. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias, Louise.
Comment Spotify veut contribuer à l'essor du podcast? Comment Instagram veut lutter contre le harcèlement en ligne? Comment Netflix veut s'implanter en Afrique? Et puis aussi la fin d'une autre collaboration pour Éric Zemmour, le début d'une nouvelle pour Pierre Ménès et le décès d'une voix chère à toute une génération d'enfants.
Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Alors petite surprise puisque Koh-Lanta n'est pas en tête cette semaine, c'est le retour d'Alex Hugo, le lancement de la saison 7 de cette série, 5 100 000 téléspectateurs, 24,3% de part d'audience devant les 2 premiers épisodes. C'est un carton, hein, c'est mieux que le lancement vraiment, précédent ouais. Parce que rien que le premier épisode est à 5 730 000 téléspectateurs. Deuxième, Koh-Lanta, donc TF1, 4 440 000 téléspectateurs, 22,8% de part d'audience. Koh-Lanta qui est en hausse par rapport à la semaine dernière. Et puis, troisième, M6 avec un film, Beaux-parents, 2 390 000 téléspectateurs. 10,7% de part d'audience. Ce film qui fait donc mieux que France 2 qui proposait une émission inédite Voyage au centre de la mémoire. Petit score, 1 660 000 téléspectateurs, 8% de part d'audience seulement devant France 2.
Culture Média.
Spotify France vient de présenter ses nouveautés de rentrée en matière de podcast.
Oui, 13 nouvelles créations originales et podcasts exclusifs. Alors, je ne vais pas tous les citer, hein, mais voici un petit aperçu. Il y aura des podcasts engagés, notamment La Poudre, référence en matière de podcast féministe, désormais exclusivement diffusé sur la plateforme. Un podcast Europe 1 Studio aussi sur l'affaire Estelle Mouzin, avec un regard nouveau sur l'enquête. Aurait-on pu connaître plus tôt la vérité sur l'implication de Michel Fourniret? Des thèmes très variés avec des nouvelles voix, mais aussi des personnalités connues comme Cyril Dion, écrivain, cinéaste, militant écolo, qui va lancer un podcast pour enfants autour des espèces animales en danger. Autre nom, Guillaume Meurice, humoriste qui va s'imaginer élu président de la République. Donc il va recruter son gouvernement en faisant passer des entretiens. Ce sera l'occasion d'interviewer des économistes, des universitaires, artistes, etc. Et puis là, un grand nom, Tony Parker, l'ancien basketteur qui proposera des entretiens avec des personnalités qu'il aime, qui l'inspirent. Spotify souhaite donc à la fois faire émerger des nouvelles voix et faire appel à des personnalités connues. Claire Azan, directrice de Spotify Studio France.
On ne choisit pas des noms connus juste pour des noms connus, mais en priorité parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à faire avec telle ou telle personnalité et que le podcast qu'on va proposer permet de découvrir une nouvelle facette. C'est le cas par exemple avec Tony Parker. Et puis la deuxième chose, c'est aussi que le podcast, c'est encore un médium émergent. Il y a encore des gens qui n'en écoutent pas ou qui ne savent pas exactement comment en écouter. Le fait de travailler avec des noms connus qui viennent d'autres univers comme le cinéma, le sport, la musique, etc., ça permet aussi de démocratiser le format podcast et d'essayer de l'emmener plus loin et de faire en sorte que toujours plus de gens découvrent et écoutent du podcast.
Oui, toujours plus de gens découvrent et écoutent du podcast. C'est l'ambition de Spotify qui veut continuer de démocratiser le podcast en plein essor. Hein. En un an, 2 fois plus de personnes écoutent des podcasts sur la plateforme et 2 fois plus longtemps. Un succès que Claire Azan explique par un double mouvement.
Nous, depuis 18 mois, on a beaucoup accéléré, c'est-à-dire que déjà on a signé des accords de diffusion avec toutes les radios, on a accéléré sur nos productions originales, on a proposé des nouvelles expériences d'écoute. Donc évidemment, ça permet d'augmenter la consommation de podcasts sur Spotify. Et puis en parallèle, parce qu'on n'est pas tout seul sur le marché du podcast et c'est vraiment un marché qu'on co-construit avec d'autres acteurs, ben, je pense que tout ce que fait tout le monde, les créateurs, les studios, les autres plateformes, participe à la croissance de l'audio. Et que ça, c'est un mouvement un peu commun à tous ces acteurs-là.
13 nouveautés à découvrir tout au long des mois à venir, de maintenant jusqu'en février 2022.
Instagram s'engage contre le harcèlement en ligne.
En lançant une campagne de sensibilisation, hashtag le poids des mots, campagne soutenue par le secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, Adrien Taquet, et par Brigitte Macron. Instagram dit faire de la lutte contre le harcèlement une priorité absolue. Donc, le réseau social crée un programme de sensibilisation avec des associations partenaires. Programme à destination des écoles hein, pour 70 000 élèves de 11 à 15 ans. Il y aura des ateliers de prévention pour éduquer, apprendre à se protéger contre le cyberharcèlement, aider les victimes aussi. En parallèle, 12 créateurs de contenu d'Instagram, c'est-à-dire des comptes qui ont plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'abonnés, vont diffuser cette campagne à leurs abonnés en racontant leur propre expérience de harcèlement ou en encourageant les jeunes qui les suivent à faire de même. Campagne annoncée en pleine vague anti-2010, hein, on vous en parlait hier, c'est ce mot-clé harcelant les nouveaux sixièmes.
Voilà, et anti-2010, le hashtag qui a été bloqué sur TikTok et d'autres fournisseurs d'accès. Paris Première cesse à son tour de collaborer avec Éric Zemmour.
L'émission Zemmour et Nolo ne sera pas à l'antenne le 29 septembre comme c'était pourtant prévu. Cela fait suite à la demande du CSA de décompter le temps de parole du polémiste, considéré désormais comme acteur du débat politique national. CNews avait pris la même décision il y a un peu moins de 10 jours. À la place, Paris Première proposera l'émission Restons zen. Éric Nolo fera face chaque semaine à un contradicteur différent. Vous apprécierez le titre de l'émission Restons zen.
Voilà, zen comme Zemmour et Nolo. L'un s'en va, un autre revient. Pierre Ménès de retour dans le paysage médiatique.
Il lance sa plateforme numérique, plateforme dédiée au foot sur laquelle on trouvera des interviews, des reportages, des talk shows. C'est ce que précise le groupe de presse Reworld Media auquel Pierre Ménès s'est associé. Le nom de cette plateforme, le Pierrot Football Club, clin d'œil à peine dissimulé à l'émission à laquelle il participe. Sur Canal+, le Canal Football Club. Il avait été retiré de l'antenne suite à la diffusion du documentaire de Marie Portolano, Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, documentaire qui révélait des comportements sexistes et des agressions sexuelles subies par des femmes journalistes de sport. Pierre Ménès y était mis en cause dans des séquences censurées dans un premier temps et le chroniqueur avait fini par quitter Canal+.
Dans l'actualité également, un décès, celui de la chanteuse Claude Lombard.
Son nom ne vous dit peut-être rien, mais sa voix si, en tout cas si vous êtes de la génération du Club Dorothée.
Pour un mot, pour un sourire, il parle, il rit derrière toi. Oh Lucille, embrasse-moi, c'est assez d'espérer, c'est assez de rêver, Lucille, embrasse-moi.
Claude Lombard était l'interprète d'une cinquantaine de génériques de dessins animés du Club Dorothée, comme Embrasse-moi Lucille que vous venez d'entendre, Chloé, les Robinson Suisse, les Snorky, etc. Elle avait été choriste également de Charles Aznavour pendant 30 ans et elle avait représenté la Belgique, son pays natal, à l'Eurovision en 68. Elle est décédée à l'âge de 76 ans.
Et on termine avec le lancement de Netflix au Kenya, lancement particulier.
Mais oui, spécificité de taille, c'est gratuit. Pas un mois gratuit, hein, comme on le voit parfois, pas un service rempli de publicité. Non, vraiment gratuit. Il n'y a même pas d'information de paiement à renseigner. Simplement à s'inscrire, en fait, c'est une stratégie de Netflix pour tenter de s'implanter dans un nouveau marché. L'Afrique, 1 milliard 200 millions d'habitants et autant de clients potentiels. Il y a quand même une nuance hein, dans cette version gratuite. Seul un quart du catalogue est proposé selon Reuters et ce sera pour les téléphones Android seulement. Netflix qui espère ainsi faire évoluer les utilisateurs vers ces offres payantes.
Ah bah heureusement, sinon il y a tous les petits malins qui vont se prendre un compte internet au Kenya pour avoir Netflix gratuitement. Heureusement que c'est que sur les téléphones portables. Merci Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour avec une revue qui ne racontera pas d'histoire, mais l'histoire par la presse. Le premier numéro de Retro News sort aujourd'hui. Projet mené par l'édition Jean-Claude Lattès et la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Nous sommes avec ses deux créateurs. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Certains disent parfois que la presse raconte des histoires, et si finalement c'était l'histoire qui était racontée par la presse. C'est en tout cas le projet de deux figures du monde du livre, la Bibliothèque Nationale de France, la BNF, et l'éditeur Jean-Claude Lattès qui s'associent pour proposer une revue surprenante. Ça s'appelle Retro News, l'histoire par la presse, 228 pages couleur, qui sort chez les marchands de journaux et les libraires. Qu'est-ce qu'on y trouve? Pourquoi ce projet? Est-ce la preuve que la presse est une trace historique nécessaire? Élément de réponse avec ces deux créateurs. Je commence par vous, Étienne Manchette.
Bonjour.
Vous êtes le responsable des partenariats et des contenus de la BNF et responsable éditorial de cette revue Retro News. Maïr Guven avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et éditeur, cofondateur du journal Le 1 et de la revue America avec Eric Fotorino et aujourd'hui le directeur de publication de Retro News. D'abord, pourquoi cette envie de lancer cette revue, Maïr Guven? C'est vous qui êtes à l'origine du projet. Comment c'est né?
J'étais tout simplement lecteur de Retro News. Retro News qui est au départ une plateforme numérique qui a rencontré un grand succès sur Internet. On peut consulter 3 siècles d'archives de presse. Elles sont éditorialisées, racontées dans des articles. Mais j'étais lecteur et vous savez, sur Internet, le temps est court, ça va vite, parfois on est dérangé. Je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir lire ça le week-end, le soir. Et puis, j'ai tout simplement contacté Étienne. Et voilà.
Et pour moi qui n'ai pas votre âge, ça abîme les yeux. Une lecture longue, je trouve que c'est pas pratique sur Internet et c'est beaucoup plus pratique dans le format papier.
Je suis entièrement d'accord avec vous. En fait, sur écran, on dit techniquement que l'œil chasse. Parce que l'œil est dérangé et la définition en réalité est moins élevée que sur papier. On va pas rentrer dans des détails techniques, mais le papier c'est agréable, c'est reposant.
Mais tout le monde le sait, tous les gens qui nous écoutent le savent. Étienne Manchette, c'est quoi Retro News à la base?
À la base, c'est le site de presse qui a été développé par la Bibliothèque Nationale et qui héberge en gros 7 millions de pages. Voilà, donc c'est 3 siècles et demi, comme vient de dire Maïr. Donc ça va de la Gazette de Renaudot jusqu'aux années 50. Et c'est un outil de recherche qui a été développé spécifiquement sur ces collections-là, qui ont été pendant assez longtemps ignorées, et puis qui ont un vrai problème de conservation aujourd'hui. Donc c'est un sujet. Et puis il y a toute la partie, nous on s'est demandé, au-delà des chercheurs et des autres gens qui ont de l'empathie pour aller chercher, comment mettre en forme, comment divulguer au maximum ces histoires-là qui sont contenues dedans. Et donc on a créé toute une offre édito dessus pour créer de l'histoire, mais aussi des histoires, des petites lorgnettes, voilà, pour rentrer dedans.
Redites le chiffre qui est astronomique du nombre de pages.
Ouais, c'est 7 millions de pages. En fait, c'est très peu. Hein. On est à 6% numérisé à la bibliothèque.
J'allais vous demander justement si c'était exhaustif.
Non, oui. Les collections, disons que le volume qui est abrité à la bibliothèque.
Est-ce que je trouve le Dauphiné Libéré, édition Aldo de Provence du 4 mars 67?
Alors, 67, non, parce que sur la plateforme, on s'arrête en 1950. Voilà, ouais. Par contre, à la bibliothèque, ça y est, à titre du polégal. Nous, on est sur une partie qui est antérieure. Et moi, ça m'arrange parce qu'en fait, tout ce 19e siècle, par exemple, c'est le grand siècle de l'information, en fait, de la naissance de l'information. Les journaux bondissent entre quelqu'un qui ouvre un canard en 1830 et quelqu'un qui veut le voir en 1890. Au niveau cognitif, c'est pas du tout le même monde. Il est connecté avec absolument tout. Il reçoit les nouvelles d'Amérique, d'Asie, etc. Et toute la structure de l'information, le récit qui va être le sang à la une, le récit sportif, etc. Voilà, c'est une mécanique de l'information qui se met en place à ce moment-là, et donc c'est vraiment tout à fait différent.
Ce qui est très très frappant quand on lit les journaux des années 60, par exemple des vieux France Soir et les faits divers, il y a quelque chose qui n'existerait plus maintenant. Je me rappelle très bien, c'est un accident qui avait eu, je ne sais plus quelle chanteuse ou actrice. Il y a non seulement le nom de l'actrice, évidemment, là où elle habite, le nom de la personne qu'elle a écrasée, sa profession, là où elle habite, c'est toutes les informations sortaient à l'époque, ce qui serait absolument impensable aujourd'hui.
Ouais, en fait, c'était même le but, c'était d'aller au plus loin et puis d'avoir cette espèce de feuilletonnage de l'actualité qui était... Qui inonde d'informations tout le long du 19e et puis après, dans les années 30, c'est encore pire.
On a compris que le projet venait de l'éditeur, le 1 ici représenté par Maïr Guven, vous avez dit oui tout de suite à une version papier.
Alors nous, de toute façon, la bibliothèque aime plutôt bien les livres. Donc nous, c'est un projet qu'on imaginait, etc. Et c'est cette rencontre qui a permis...
Ah, c'était aussi dans les tuyaux déjà.
De toute façon, moi, le papier, on a le même rapport à l'écran, c'est-à-dire que d'avoir cette base de données, ce moteur de recherche, c'est toujours très intéressant. C'est même indispensable pour les chercheurs, mais c'est vrai que le temps de lecture, l'appropriation, le contact globalement aux archives, regarder, prendre le temps de regarder une archive, c'est... pour moi, c'est un plaisir. Donc quand Maïr est venu, c'était... Voilà, on a bien tilté là-dessus.
Alors donc, c'est édité par Lattès, alias Jean-Claude Lattès, qui s'écrit J.C. Lattès quand on le voit. Pourquoi ne pas s'être adressé à un groupe de presse? Pourquoi un éditeur?
Oh, vous savez, moi j'ai travaillé dans la presse dans le passé. Aujourd'hui, je suis directeur littéraire. Pourquoi? Parce qu'on est capable de le faire, et puis qu'on le fera différemment. On a mis beaucoup de littérature dans ce magazine. On aime beaucoup les livres, on aime les romans, on aime l'histoire.
C'est pas une question de praticité, c'est plus...
Non, vous savez, personnellement...
Je pensais que c'était plus facile pour les retours, pour vendre, pour les stocks. Non, rien à voir avec ça.
Non, vous savez, moi je me lance dans les projets comme dans les histoires d'amour. Donc,
ah bon, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui vous écoutent à ce sujet-là, donc allez-y. C'est-à-dire,
quand j'aime bien les personnes avec qui je peux travailler,
ouais,
quand elles sont passionnantes, quand elles m'apprennent des choses, Retro News m'a énormément appris. Je veux dire, et ce sentiment d'apprendre, j'avais envie de le transmettre.
D'accord.
Vraiment. C'est-à-dire, en lisant
vous
le passé.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi un éditeur plutôt qu'un organisme de presse?
Oh, mais parce qu'on savait faire. Voilà.
À qui s'adresse Retro News? C'est pour les chercheurs, pour les passionnés d'histoire, pour les journalistes, pour dire les choses clairement, pour les CSP++. J'en parle parce qu'ils ne sont pas très nombreux, hélas.
Alors non, pas du tout. Nous, la philosophie générale, elle est plutôt d'aller dans les gares, d'aller dans les endroits où les gens passent, les gens découvrent ces contenus-là. Donc non, elle est épaisse, mais en fait, c'est des histoires qui sont... Pierrot le Fou, le récit de Pierrot le Fou, vu par la presse, tout le monde peut lire ça.
Pierrot le Fou, je précise, parce que c'était la mort de Belmondo récemment, pas le personnage joué par Belmondo dans le film de Godard, Pierrot le Fou, c'était un tueur.
L'original.
Racontez qui était Pierrot le Fou, c'est justement, il a ironisé, il s'est appelé Pierrot le Fou en référence à ce tueur. Racontez qui il était Pierrot le Fou.
Et ben, en gros, c'est une espèce de bandit, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est la mise en scène qui émerge fait par la presse, c'est-à-dire que là, il y a une fictionnalisation quasiment du récit. Et donc voilà, là, quand vous lisez cette histoire-là, telle que nous on la restitue, c'est une espèce de revue de presse de toute cette mécanique qui dresse un portrait de lui. Et puis vous avez les archives brutes autour de ça.
On voit que les journaux n'étaient absolument pas comme maintenant. Par exemple, l'Humanité, qui est maintenant un journal plus d'opinion, qui était avant l'organe central du Parti communiste. Là, l'UMA, ils enquêtent sur Pierrot le Fou, comme si c'était François ou faites entrer l'accusé. La presse était totalement différente. Il y a une rédaction, comment vous travaillez?
Alors, comment on travaille? Il y a une rédaction chez Retro News, aujourd'hui. De mon côté, je suis éditeur, donc on travaille en collaboration, on définit les sujets. Notre idée, c'était de questionner l'actualité, questionner le présent. Donc on a pris quatre grandes thématiques d'actualité et on a confronté ces thématiques à des moments d'histoire.
Vous savez quoi? Ces quatre thématiques d'actualité, on va les confronter aux questions. C'est dans Culture Média, à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Étienne Manchette, il est le responsable des contenus à la BNF. Maïr Guven, il est écrivain, éditeur, il travaille notamment pour Le 1 et il lance ensemble Retro News. C'est une collaboration entre l'édition et la BNF. Découvrir l'histoire par la presse, c'est une revue qu'on peut trouver dans les librairies. Très belle revue, 225 pages illustrées. Vous nous disiez, avant qu'on marque une pause, qu'il y avait quatre grands thèmes développés dans ce numéro. Lesquels sont-ils? Après, je vous demanderai pour quelles raisons, pourquoi ceci.
Alors, on a un grand thème, résistance, qui fait écho à l'actualité, partout dans le monde. Crime et délit, sexualité. Et bien entendu, contamination, on ne pouvait pas passer à côté.
Mais on se demande vraiment pourquoi il y a un papier sur la grippe espagnole. Comment vous avez travaillé? Il y a une rédaction, comment ça se passe?
Oui, alors nous on a une rédaction, on a surtout des gens qui écrivent pour nous, donc toute la partie universitaire notamment, donc c'est aussi ça qui est un champ de publication en soi. On demande à des universitaires d'écrire à base d'archives, donc c'est une manière d'écrire assez différente de ce qu'ils font d'habitude. Il y a des journalistes qui écrivent pour nous et des écrivains dedans. Donc nous on choisit des petites histoires, ou des grandes histoires, et on va développer des thèmes. Donc là, sur contamination, par exemple, alors certes, il y a le masque, l'apparition du masque, mais l'idée de contamination est un peu plus vaste que ça, c'est-à-dire que il y a de la pollution.
Mm-hmm.
Voilà, on refait, quelqu'un comme François Jarry, je refais l'itinéraire du mot pollution dans la presse, et qui à la base est plutôt une pollution mentale, et qui devient au fur et à mesure une pollution industrielle. Et là, on est sur la transformation de la naissance de ce mot-là, comment il émerge comme une trend de Twitter, en fait.
Vous le racontez très bien. Vous avez l'année en tête ou pas du tout? Moi, c'est facile pour moi, je l'ai noté. 1865, le mot apparaît en France dans la presse. C'était dans le journal Le Siècle. Un journaliste décrit une nouvelle loi londonienne, ça se passe à Londres, sur les égouts, et il ajoute que les autorités, je le cite, auront le droit d'intenter toute poursuite judiciaire pour empêcher la pollution des cours d'eau. C'est la première fois que le mot apparaît en France. C'est émouvant de retrouver des archives comme ça.
Ah, c'est émouvant, et puis c'est interrogeant surtout, c'est-à-dire que tous ces mots émergent, c'est-à-dire que écologie, par exemple, c'est un mot qui n'existe pas, et voilà, donc nous, on essaie toujours de traduire un maximum. On parlait de sexualité aussi, c'est pareil, donc l'homosexualité qu'on traite, la perception qu'a la presse dessus, c'est des choses qui... il y a un non-dit qui est terrible. C'est vraiment d'autres changements de perception. Ne parlons pas de la masturbation.
Mais sur la sexualité, sans remonter jusqu'au siècle dernier, je me souviens, à l'avant-siècle dernier, je me souviens que quand j'étais petit, l'homosexualité, c'était traité dans les émissions médicales. C'était pas traité au chapitre.
C'est justement tout ce récit-là, c'est l'onanisme. Voilà. C'est comment la science condamne l'onanisme. Donc c'est un superbe papier. Et là, pour le coup, on apprend énormément de regard de la science sur ces pratique.
À ce propos, pas loin, vous proposez un grand papier sur le procès d'Oscar Wilde en 1895. On est encore en Angleterre. Procès sur les écrits de l'auteur jugé immoraux. Des auteurs au tribunal, il y en a eu pléthore, pardon de dire ça. Vous allez tous les faire?
Non,
c'est sans fin ou presque.
Celui-là, mais en fait, ce qui est intéressant dedans, c'est aussi la manière dont il est décrit, la résistance verbale que lui oppose, etc. Et comment les journaux sont assez ambigus. Il y a peu de prise de défense. Donc, il y a une espèce d'ordre moral permanent qui s'impose via la presse, et certaines presses en tout cas. Donc, ça, c'est ce qu'on essaie aussi de transcrire. C'est comment il va se faire démolir au bout du compte, pourtant il essaye de se tenir, et toutes ces descriptions, ces portraits de lui qui sont faits avec les mots, parce que c'est avant tout des mots, hein, bien sûr, à l'époque, c'est assez troublant.
Assez étonnant, à la fin de cette revue, donc qui tourne vers l'histoire, Maher Guven, il y a des nouvelles. Pourquoi ce choix et qui sont les auteurs de ces nouvelles?
Alors, ce sont trois romanciers et un historien, David Dufresne, Célia Lévy, Catherine Dufour et Quentin Delormoz. L'idée... Vous savez, l'histoire, elle s'écrit.
Ils sont de ce monde, hein.
Ils sont de ce monde.
Ça que j'en parle, parce que Retro News, quand on fait trois siècles d'histoire, c'est pas quelqu'un que vous avez exhumé du Moyen-Âge.
Ce qu'on trouvait passionnant, c'est de donner à ces auteurs accès aux archives et qu'ils nous racontent comment s'écrit l'histoire. En fait, qu'ils écrivent leur histoire à partir des archives. Moi, ce qui est passionnant, j'ai mis du temps à le comprendre, mais c'est que l'histoire s'écrit. On a besoin de sources. Et Retro News raconte ça. Les sources, ce sont les journaux. Qu'est-ce qu'on a? On a des sources orales, on a des rapports de police, on a des rapports de condamnation judiciaire, mais on a les journaux, et donc la BNF est là pour nous donner cette matière, et ces historiens nous illustrent cette manière de travailler.
À la main, j'ai le numéro 01, on peut y lire automne 2021 sur la quatrième de couve, donc si j'ai bien compris, l'idée c'est de faire un trimestriel.
Oui.
Vous savez déjà quel sujet vous allez traiter? Il est déjà imprimé? Vous en êtes où du prochain ou pas du?
Alors, il n'est pas encore imprimé, mais dans les tuyaux.
Vous savez déjà ce qu'il y a, quoi. Il est dans les tuyaux, il est en route.
Oui, tout à fait. Bah, des problèmes toujours liés aussi à des choses qui sont liées à l'actualité. Hein. Il y a toute la partie perception de l'immigration, par exemple. C'est quelque chose qu'on doit traiter parce qu'il y a vraiment une rétrospective. Tout le 19e, le droit aux exils, par exemple, était assez différent. Mm-hmm. Des gens comme Delphine Diaz travaillent dessus. C'est vraiment très, très. Très, très intéressant. Et puis après, on a des choses plus ludiques, mais on va rentrer dans une phase présidentielle.
Ouais, on va avoir des photos inédites, beaucoup plus de photos dans le deuxième numéro, même si on en a, mais on va proposer un grand portfolio, des dessins de presse.
Pardonnez-moi, qu'appelez-vous des photos inédites, puisque par définition, elles doivent être sorties dans la presse, donc
oui,
elles ne sont pas inédites.
Bien sûr,
vous voulez dire des photos oubliées.
Des photos oubliées, ou ouais. Rares. Beaucoup de dessins de presse également, montrer par exemple l'invention de la satire. Étienne connaît très très bien le sujet, et quand il me raconte, c'est passionnant. Et donc, on va forcément parler de politique. Là.
La revue est tirée à pas moins de 25 000 exemplaires. C'est audacieux. Pourquoi autant? C'est quoi votre, si je veux dire, votre business model? Vous allez me récuser le terme, mais tant pis, je l'ai lancé.
Notre modèle économique.
Voilà.
Non, c'est de le vendre chez les marchands de journaux et en librairie. On est persuadé que les Français adorent l'histoire. On leur propose une autre manière de découvrir l'histoire, une nouvelle manière. Une manière racontée par des historiens. Bien entendu, c'est accessible. On essaie de faire le pont entre l'université et le grand public. Ça, pour nous, c'est très important. Et donc, notre modèle économique, c'est que ça marche et qu'on trouve un public. Voilà.
On ne l'a pas dit, la revue est vendue 19 euros. C'est le prix d'un beau livre, c'est illustré. Il n'y a pas de publicité. Il y a une formule d'abonnement?
Bientôt.
Ah. Oui, tout à fait.
Pour le numéro 2, ça sera quoi le prix?
La formule d'abonnement, 4 fois 19 euros pour un an, 76.
Je me tourne vers vous, Étienne Manchette. La BNF avait le souhait de monétiser ses contenus. Où en êtes-vous? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qui est gratuit? Qu'est-ce qui est payant chez vous?
Alors, toutes les archives sont en accès libre, partout. C'est la philosophie de la bibliothèque. Nous, ce qu'on fait sur Retro News et dans cette version-là, c'est que les gens qui écrivent, c'est comme tous les canards... Le père Dufresne, pas Dufresne d'ailleurs, Duchesne, le disait, si vous voulez venir, il faut payer 4 sous. Et ben nous, les universitaires, les journalistes, les écrivains, ces gens qui ont fait des fictions pour nous, ils écrivent, ils travaillent, donc on les rémunère. Et c'est cette partie-là surtout qu'on monétise.
Merci beaucoup Étienne Manchette. Je rappelle que vous êtes responsable des partenariats et des contenus de la Bibliothèque Nationale de France, la BNF, et le responsable éditorial de Retro News. Et Maher Guven, vous êtes auteur, éditeur et le directeur de la publication de ce même Retro News. J'y arrive, disponible chez les marchands de journaux et en librairie dès aujourd'hui pour la modique somme, comme on dit, de 19 euros. Dans un instant, tout à fait autre chose, on va parler de l'émission phare de W9, c'est de la télé-réalité, c'est les Marseillais. Nous serons avec Greg, l'un des candidats du programme, et Florence Fayard, c'est la directrice générale de Banijay Productions, qui est désormais le numéro 1 mondial des producteurs indépendants et également productrice des Marseillais. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Greg.
Bonjour.
Vous êtes Marseillais, on vous surnomme Bébé, ou vous êtes l'une des figures des Marseillais contre le reste du monde. La télé-réalité W9 qui a repris à la rentrée pour sa 6e saison, c'est donc dire que ça marche. Florence Fayard, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes déjà venue ici, je suis ravie de vous recevoir à nouveau. Vous êtes la directrice générale de Banijé Productions, la société de Stéphane Courbilly qui est devenue numéro 1 mondial des producteurs indépendants. Et vous êtes la productrice des Marseillais. Avant qu'on parle du contenu, d'abord les chiffres. C'est à l'antenne depuis 6 semaines, ça marche comment? Ça démarre comment?
Ça démarre bien, ça démarre comme l'année dernière. On n'est pas depuis 6 semaines, hein. Ça fait 4 semaines.
Ah, vous avez raison, 4 semaines,
ouais, quatre semaines.
Je vais trop vite. C'est moi,
non,
je suis rentrée
non,
depuis 6 semaines pour préparer l'émission,
ah,
donc
ça,
je me suis dit
oui,
aussi.
C'est ça, les vacances sont loin déjà. Non, ça démarre très bien, on est très contents de la saison. On est sur des audiences entre 500 et 700 tous les soirs. Et après, évidemment, en audience consolidée, on est bien plus, parce qu'aujourd'hui, ça se regarde sur tous les écrans, les Marseillais.
L'audience consolidée, ça veut dire si on ajoute le replay et les gens qui
exactement
regardent sur les smartphones. La saison passée, c'était très très bon, 900 000 téléspectateurs, 3,8% de part de marché, et 9% sur les FRDA, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, avec un pic d'audience à 1,2 million. Mais le démarrage, en ce moment, il est moins bon, évidemment, pour tout le monde, puisque il fait très beau. Et donc, les gens n'ont pas envie d'être devant la télé quand il fait très beau. Le principe du jeu, on peut l'expliquer, parce qu'il y a il se passe deux choses dans ce jeu. C'est une compétition entre deux équipes,
ouais,
un peu comme Koh-Lanta, sauf que vous avez à boire et à manger.
Oui, Koh-Lanta quand même en plus soft. Hein,
voilà,
en
plus soft. Voilà,
Racontez le principe.
Le principe, en fait,
pas,
c'est deux familles en fait, qui s'affrontent et qui doivent gagner une coupe.
Voilà.
Et c'est vrai qu'on est, on est beaucoup, parce qu'il y a le RDM.
Le RDM, c'est le reste du monde.
C'est ça, c'est le reste du monde. Il y a les Marseillais.
Ouais.
Et du coup, on se bat pour remporter cette coupe.
Voilà, mais il y a des épreuves de force, des épreuves d'agilité.
Il y a de tout. Il y a des jobs, il y a des battles.
Ouais.
Il y a des épreuves de force, il y a des épreuves d'agilité, il y a des parcours du combattant. En fait, c'est plusieurs épreuves qui sont réunies, en fait. On peut avoir de tout, hein.
On a de tout.
Ouais,
on surgé, hein. On rigole.
Peut,
ouais.
On peut nettoyer un chien, comme on peut faire un parcours du combattant,
voilà,
comme on peut passer sur une poutre.
Ou faire des devoirs de vacances.
Ou faire des devoirs
un
de vacances,
soir,
le petit bac, par exemple. Donc,
ça, c'est une partie de l'émission.
C'est
et puis, il y a une autre partie, c'est toutes les interactions entre les garçons et les filles qui sont là.
C'est ça, parce
c'est
que
ça le cœur du sujet,
ouais,
non
voilà.
Oui, le cœur, de toute façon, ça reste les histoires. C'est ça qui est important.
C'est
les stories. Après, le cadre, c'est la compétition et l'histoire, c'est vraiment l'histoire humaine entre les gens qui sont là.
C'est alors, ça, surtout qu'en plus on est en communauté, donc on est beaucoup.
Ouais.
Et quand on est la vie en communauté, il y a des histoires, il y a des histoires d'amour, il y a des clashs. Donc c'est vrai que c'est quand même une expérience de... C'est une très très bonne expérience.
Hein. Il y a des clashs, on va en parler. Les deux derniers épisodes des Marseillais, ceux de lundi et ceux de mardi, ne parlaient que de vous, Greg. Donc
oh là là.
J'en ai profité. On va entendre un extrait où les questions de tromperie. Vous auriez trompé votre ex Maëva avec Mélanie et vous assumez.
Mais allô, je drague pas n'importe qui en fait. Je drague Mélanie qui
avec
est mon ex. Qui est mon ex,
avec
oui.
Qui
est mon ex.
Avec
et avec qui je t'ai trompé par message. Oui.
D'accord.
Ben oui.
Je pense que Maëva n'assume pas et ses paroles ne vont pas avec ses actes. Parce qu'elle a une rancœur terrible envers moi. Eh ben oui, je t'ai trompé, Maëva. Oui. Qu'est-ce que tu as? Tu te crois que tu es Maëva? Alors tu te crois intouchable? Mais en fait, ce qui te met la haine, c'est ta fierté qui a pris un coup. Parce que je te dis dans ta tête, bébé, on ne pourra jamais me tromper. Eh ben bébé, oui, t'as trompé. Et bébé, alors d'aujourd'hui, il t'aime plus. Et bébé, il refait sa vie. Et qu'est-ce qu'il y a en fait?
Bébé, ou c'est vous, Greg? Et on voit que c'est très produit. Il y a du travail sur le son, sur le montage.
Ah bah il y a du travail en montage, ça c'est
pas
sûr.
Simplement des documents bruts, on entend, c'est il y a une ambiance musicale
qui
est faite avec les
il y a toute une charte en fait sur ce programme, enfin sur ces programmes, les séries réalité, la charte est très travaillée, la post-production c'est un moment clé de la fabrication du programme. Et effectivement, on accompagne avec des codes empruntés un peu à la fiction, c'est-à-dire effectivement la musique, le rythme, les effets sonores, etc. Donc tout ça, ça accompagne le rythme du storytelling aussi. Il y a des cliffs intermédiaires, etc.
Cliffs, c'est des cliffhangers, c'est des moments où on a envie de savoir ce qui va se passer.
Exactement, des moments de suspense qui sont en milieu, en plusieurs endroits d'épisodes, et évidemment un moment de suspense à la fin, c'est construit, oui.
Et j'ai découvert en préparant cet entretien quelque chose que j'ignorais, que vous avez révélé aux Parisiens récemment, que les candidats, vous avez un jour de repos hebdomadaire,
ça,
mais
dimanche.
Pendant le jour de repos, ils n'ont pas le droit de régler leurs problèmes.
Ah oui,
vous
ça.
Leur avez
ah oui,
mis
oui.
Une nounou qui les chaperonne. Racontez.
Oui.
C'est ça, en fait.
Ah,
on
oui,
est,
nounou.
On est, en fait, on est interdit de faire du off. C'est-à-dire
ouais.
que le dimanche, ben, déjà, on n'a pas de micro. Et donc, c'est chacun vaille à ses occupations.
Ouais.
On a bien sûr une nounou qui nous surveille. Par exemple, c'est sûr qu'on ne peut pas...
Elle fait quoi, la nounou?
Elle vous empêche de faire quoi ? De parler avec votre ex, par exemple, pour régler un problème ?
Oui, voilà, soit pour parler avec notre ex, ou soit pour embrasser une fille, alors que, par exemple, l'histoire ne s'est pas faite avec cette fille et qu'on l'embrasse. Donc c'est vrai que...
D'accord.
Tout ce qui se passe le dimanche,
en fait. Pas de nouveauté le dimanche.
Mais en fait, l'histoire ne doit pas continuer le dimanche.
Voilà, c'est ça.
Parce que les téléspectateurs, sinon, ne vont pas comprendre pourquoi, quand on arrive le lundi, il y a un couple qui n'est plus ensemble ou qui est ensemble. Donc, moi, c'est mon rôle de veiller à tout ça. Et effectivement, il y a des nounous pour ça, mais des fois, on les sépare aussi. On leur met des activités, on sépare les gens.
Ah oui, c'est vrai que le dimanche, c'est un jour off. Et c'est fait aussi pour qu'on se libère, en fait.
Voilà ce qu'on aurait pu rater s'il n'y avait pas cette nounou. Mais voilà ce qu'on peut trouver dans les Marseillais. Greg, je reviens à vous. L'effet prodigieux que vous faites sur les filles, en l'occurrence Mélanie, un soir, devant tout le monde, ils sont tous là, les uns les autres, les Marseillais, le reste du monde, Mélanie pète les plombs.
Depuis que je suis arrivée dans cette aventure, on me parle de Greg, sauf que Greg, c'est quelqu'un que j'ai du mal à sortir de ma vie, c'est quelqu'un que j'ai du mal à oublier, et on me parle sans cesse de lui. Putain, mais foutez-moi la paix, en fait.
J'ai le droit de plus aimer Greg ou pas?
T'as le droit, chérie, t'as le droit de plus voir des
gens. Je ne ressens plus rien pour lui. Arrêtez de me parler de lui 24 heures sur 24, j'en ai marre. J'en peux plus. Vous êtes tout le temps en train de dire. Depuis qu'il est arrivé, c'est ça. Depuis ici, c'est si. Je m'en bats les de Greg, c'est bon. Je m'en fous.
Pourquoi tu pleures?
Est-ce que vous vous rendez folle?
Elle devient complètement folle. Je précise que ça s'est arrangé. Vous en rajoutez ou elle est vraiment dingo à ce point?
Non, elle est...
Elle est d'autres, hein. J'ai pris cette séquence-là parce que vous étiez là, mais elle n'est pas la seule à pousser des cris.
Non, elle est je pense qu'elle est... Elle est comme ça, Mélanie. Elle est naturelle. Et c'est vrai qu'aussi, nous, on est là, on n'est pas des acteurs. Donc, ce qu'on ressent, toutes nos émotions, en tournage, c'est vrai qu'il y a tout qui ressort.
Ouais.
Donc, quand je la vois comme ça, ouais, c'est sûr que là, rien que je rentends, ça me fait un petit peu de peine quand même, parce que je me dis que...
Mais tout ça, c'est très sincère. C'est-à-dire que c'est des sentiments qu'on ressent comme dans la vraie vie. Et effectivement, ce jour-là, pour elle, c'est difficile de revoir Greg parce qu'elle l'avait pas vu depuis longtemps et que leur histoire était un peu lourde derrière.
Ouais, c'est vrai que c'était très sincère.
Pardon de dire ça, j'ai vécu, mais j'ai jamais vu une fille s'énerver comme ça devant 10 personnes. Ce qui est le cas.
En fait, quand on est en tournage, les émotions se décuplent, en fait. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'on peut passer de la rigolade à pleurer, après à chanter, à danser. Donc c'est vrai que les émotions, en fait, c'est un truc de malade parce qu'il y a tout qui... Voilà, c'est comme une cocotte minute, en fait. Ça monte.
Je vais rassurer tout le monde. Mélanie, ça s'est arrangé entre vous deux.
Oui.
Hein, vous êtes ensemble, si je suis bien
ensemble.
Informé.
Ah, bravo, Philippe.
Mais oui, c'est Alice Faust qui travaille avec moi. Elle m'a informé de tout. J'ai la liste de vos ex. Vous allez voir, on va en parler.
Culture Média.
Culture Média continue. On est avec Greg et Florence Fayard. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nous parlons des Marseillais contre le reste du monde. On entend le générique, c'est le programme de télé-réalité de W9 qui a redémarré il y a 4 semaines. On est avec Greg alias Bébé ou Florence Fayard, la productrice. Greg, vous êtes évidemment un participant de l'émission. On parlait des colères. Est-ce qu'il y a des candidats qui sont vraiment fâchés à cause de ce qui s'est passé à l'antenne ?
C'est-à-dire ce qui se passe.
Est-ce que c'est des vraies colères ou est-ce qu'après...
Ah non, c'est des vraies. Nous ne sommes pas des acteurs.
Ouais.
C'est-à-dire, on n'a pas un script, on ne se lève pas avec un script en disant bon, ben aujourd'hui tu vas faire ça, aujourd'hui tu vas crier, aujourd'hui tu vas.
Mais quand on dit, vous avez été fâché avec Paga, qui est un autre participant, vous êtes vraiment fâché ou c'est juste de la fâcherie d'opérette, si j'ose dire, pour les caméras?
Ah non, non, non. Quand je me dispute avec Paga, c'est vraiment, on se dispute. Je lui dis mes quatre vérités, on se dit nos quatre vérités, mais après, l'amitié est plus fort que tout, donc on va se disputer. C'est sûr, il y a des disputes, il y a du rabibochage, donc c'est ça qui fait que ça marche et qu'on est présent. Après, on n'est pas des acteurs et il y a ma productrice qui est là, qui s'appelle Florence Fayard, bien sûr, et que elle nous scripte rien, quoi. Nous, on se lève le matin, on prend notre micro et on fait notre life, hein.
C'est ça.
Alors, Alice
Je pourrais même parler avec une bouteille de lait, moi. Ouais. Moi, je suis un malade.
Alice Faust, avec qui je travaille, m'a scripté la liste de vos ex. Elle m'a dit, est-ce que tu veux la liste de ses ex? J'ai dit oui. C'est vos ex de télé, hein. Il y a Maëva, Cynthia, Angèle, Laura, Safia, une nuit seulement, me dit-on. Et maintenant, vous êtes en couple avec Mélanie. Ça fait 7 copines en 2 ans. Vous êtes trop sentimentale.
C'est vrai, quoi. Je suis un garçon qui est quand même qui est. J'ai un cœur tendre, oui, et je suis très sentimental. Après, quand on est en aventure, c'est sûr que voilà, il y a des filles, il y a de l'amour. On est là pour quand même se. Voilà. Après, c'est sûr, on va pas se forcer envers une fille, bien sûr. Mais après voilà. Hein,
quand si je suis bien informé, vous étiez avec Maëva.
Oui.
Maëva, qui a fait une polémique avec une histoire de vagin. J'ai même pas cru. Elle a expliqué ça dans une vidéo sur Snapchat. On l'écoute.
Au niveau de mon vagin, genre de la radiofréquence et la mésothérapie sans injection. Et en fait, ça rajeunit le vagin. Genre, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre.
Se faire rajeunir le vagin via des opérations, des chirurgies esthétiques ou pas, Florence Fayard, est-ce qu'on n'est pas là à la limite du buzz? Est-ce qu'on n'envoie pas un message un peu terrible à toutes les jeunes
non,
filles?
Non, mais là, en fait, elle a fait une erreur.
Est-ce qu'elle l'a fait avec votre accord?
Non,
déjà
pas du tout, déjà sans mon accord, mais au-delà de ça, elle a fait une erreur dans sa façon de s'exprimer, parce qu'elle n'a pas fait de chirurgie esthétique à ce niveau-là, parce qu'elle elle avait une brûlure qui était liée à une épilation, et donc elle est allée traiter cette brûlure, sauf qu'elle s'est hyper mal exprimée, que ça a été très mal interprété de l'autre côté. Elle l'a regretté sur les réseaux, elle s'en est excusée, et elle a reformulé ce qu'elle voulait dire. Évidemment que ça, je ne cautionne pas, et évidemment qu'ils ont aussi le droit de faire des erreurs.
Parce que je vous en parle, ce que vous dites, les Marseillais, c'est le nouveau Hélène et les garçons. Ça remonte dans les années 80, c'est quand même un peu plus hystérique qu'Hélène et les garçons. C'est plus en prise avec la réalité, et la preuve avec cet exemple.
Ah bah non, mais on est plus 2021.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Moi, j'aurais dû
parler. On est plus 2021, c'est la génération aussi qui est un peu comme ça, mais on aborde aussi tous les sujets. La chirurgie esthétique, c'est un sujet qu'on peut aborder. Il y a les pour, il y a les contre, il y a celles qui le pratiquent à outrance, il y a celles qui ne le font pas.
Ah bah il y a beaucoup de chirurgie esthétique.
Il y a beaucoup de chirurgie esthétique.
Je rebondis parce que dans une interview, je préparais cet entretien et vous disiez comment a été fait le casting. Vous disiez il y a aucun critère physique, mais vous pouvez pas dire ça.
Si.
Mais tous les gars ont des tablettes de chocolat, ils ont quasiment tous des tatouages, et toutes les filles dépassent le 90C ou
Non, pas toutes.
Non,
il n'y a vraiment pas de critère physique. Il n'y a aucun critère physique. Après, je pense aussi que c'est générationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tatouages ou la chirurgie esthétique... d'ailleurs, la chirurgie esthétique est peut-être aujourd'hui ce qu'étaient les tatouages hier. C'est-à-dire une façon de se customiser, de se différencier ou de ressembler à. Mais c'est générationnel. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui choisissons des gens qui veulent ou qui ont fait de la chirurgie.
Et surtout qu'on est en 2021. Donc, ouais. C'est sûr qu'on n'est pas aux States, en France, bien sûr. Mais après, comme elle a dit Flo-Flo... on n'a pas de critères physiques. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de critères physiques.
Je veux dire pourquoi je souris, parce que j'allais poser ma question suivante et à Florence Fayard, donc j'apprends qu'elle s'appelle Flo-Flo. Ma question était la suivante.
Moi, c'est ma Flo-Flo. Hein.
Est-ce que vous êtes sur place pendant les tournages ou est-ce que vous êtes, comme beaucoup de producteurs, à Paris dans un bureau?
Alors, ça dépend des tournages.
Ouais. Par contre, vous y êtes.
J'ai une très bonne équipe qui est avec moi, donc ça me permet de ne pas y être tout le temps. Et j'ai un producteur qui s'occupe au quotidien, qui s'appelle Benjamin Giazzi, qui fait un travail formidable. Mais je continue à aller sur les tournages, et notamment le tournage de l'été, c'est mon petit tournage où je suis toujours là avec
voiturette.
Eux. Voilà, avec ma petite voiturette.
Ah ouais.
Mais j'aime ça. J'ai besoin, moi, de rester ancrée avec eux. Je veux surtout pas devenir une productrice de bureau.
Comment ça se passe, votre vie d'après? Je veux dire, le sens de ma question, j'ai découvert ça en préparant cet entretien. Greg, vous êtes fait cambrioler, agresser, c'était le 28 août dernier, chez vous à Marseille.
C'est ça.
Deux types cagoulés, armés et gantés. Ils ont deux Rolex et de l'argent liquide. Ce qui m'a étonné, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que le lendemain, vous en faites une story Instagram, je vous cite, « On a eu très peur, je me dis qu'on a eu de la chance que ça aurait pu être pire, avoir une arme pointée sur soi, je ne l'oublierai jamais. Comment vivez-vous avec cette peur ?»
Ben en fait, quand on se dit que ça va jamais nous arriver, parce que c'est vrai que je regardais beaucoup les 90 minutes enquête,
ouais.
Les trucs sous tension, voilà. Etc. Et en fait, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui restera gravé à vie pour moi. Parce que on ne se rend pas compte, on ne réalise pas.
Pourquoi avoir médiatisé ce fait-là, cette peur-là?
Ben en fait, je l'ai pas médiatisé en fait, c'est que
bah
en
si,
fait,
si vous, si vous oui. faites une déclasse sur Instagram, c'est médiatisé.
Ben oui, parce que je vais vous finir. Moi, je voulais pas en parler de ça, et le problème c'est que c'est la Provence qui l'a sorti en fait, et donc comme ça a été sorti sur la Provence, bien sûr, donc j'étais obligé de me justifier pour que les gens comprennent en fait, tout simplement.
Petite question, m'a demandé de vous le demander. Vous habitez à Marseille,
c'est ça.
Donc vous n'habitez pas à Dubaï.
Non.
Comme beaucoup de gens, la télé-réalité.
Non.
Et pareil. Flo-Flo, vous habitez à Paris.
Vous n'habitez pas à Dubaï. À Paris.
Merci beaucoup, Greg Bébéou. Finito pipo, comme vous dites. Pouvez-me le dire?
Finito pipo.
Merci, Florence Fayard. Vous êtes la directrice générale de Vanijay. Et là, on entend votre tube, Schlag.
C'est ça.
16 millions de vues sur YouTube. C'est juste complètement dingue. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média.
Merci beaucoup, Philippe.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité Florent Pagny pour son nouvel album L'Avenir. Et puis dans les indispensables, on va parler comics avec du Batman. Et c'est Clément Le Saff qui nous en parle. Et en acte 2, Stéphane Houloir qui nous parle du nouvel album posthume de Johnny Hallyday. En fin d'émission, l'imitateur Marc-Antoine Lebray. À tout de suite.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.